enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, on va continuer notre sujet et on va parler maintenant de l'espérance. L'espérance. Le texte de base que nous allons prendre, c'est évidemment 1 Corinthiens 13, le verset 13. Ces trois choses donc demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et nous allons ajouter à cela un autre verset, Hébreux 11. Hébreux qui nous donne une définition de la foi. Hébreux 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'espérance. L'auteur du livre d'Hébreux, en voulant donner une définition de la foi, étant inspiré par le Saint-Esprit, parce que nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, en donnant la définition de la foi, il parle de l'espérance. En voulant définir la foi, il emploie le mot espérance. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc quelque part, la foi est liée à l'espérance et l'espérance est liée à la foi. Nous avons parlé de la foi et maintenant nous parlons de l'espérance. Espérer, c'est avoir confiance. Ça peut se définir comme ça aussi. C'est attendre quelque chose. Et bien entendu, quand on parle d'attendre quelque chose, il y a sous-entendu la patience et l'attente. Donc, l'espérance est cette position, cette attitude que nous avons. On a confiance, on attend quelque chose et on l'attend dans la patience. C'est pas une attente agitée, mais on est posé parce qu'on est confiant. Et on attend, tout simplement. Dans l'Ancien Testament, oui, plusieurs fois, on a vu des exemples où on pourrait parler de l'espérance. Dans Genèse 48, 21, Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » Genèse 49, verset 9. Judas est un jeune lion. « Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. » Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. On a, à partir de ces versets, pour ne prendre que cela, on voit que quelque part, même dans l'Ancien Testament, il y avait déjà cette attitude d'attente, dans une pleine confiance et dans la patience. Ils attendaient des promesses que Dieu leur avait faites. Jacob, qui désormais s'appelait Israël, parle à son fils en disant, « Je sais que Dieu vous bénira. Il te faudra attendre avec le peuple tout entier. Un jour, Dieu vous fera sortir et vous emmènera dans le pays de vos pères. » Déjà lui, il croyait en cela et il attendait cela. toute sa vie, malgré la bénédiction qu'ils avaient dans ce pays-là, parce qu'ils avaient obtenu la faveur de celui qui dirigeait l'Égypte à cette époque-là, lui, il continuait d'espérer à ce que Dieu avait promis. Nous allons revenir là-dessus. Et quand il a appelé ses 12 enfants pour prier pour eux, sentant sa mort prochaine, les bénédictions prophétiques qu'il a prononcées sur chacun de ses enfants arrivaient à Judas, il a dit, le sceptre ne s'éloignera pas jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Prophétiquement, Jacob, Israël, savait qu'un jour, la délivrance allait arriver. Et porté par l'Esprit de Dieu, il joint son espérance à la promesse de Dieu. Et en bénissant son enfant, il prophétise en disant, le Shiloh viendra, jusqu'à ce que le Shiloh viendra. Ça veut dire qu'il y a une certitude qu'il viendra. Ça veut dire qu'il y a un temps marqué, jusqu'à ce que. Ça ne veut pas dire que les choses s'arrêteront là. Mais de ce moment-ci où je suis en train de te bénir, jusqu'à ce que, alors seulement, à partir du moment où le Shiloh viendra, commencera une ère nouvelle. Il espérait en quelque chose. Donc les promesses dans l'Ancien Testament étaient plus basées sur les, plutôt, l'espérance dans l'Ancien Testament était plus basée sur les promesses de Dieu, les promesses de délivrance, les promesses de restauration. Dieu ne cessait de répéter que j'ai promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, je leur ai promis que je vous bénirai, je leur ai promis que j'ai fait une alliance avec vous, je ne vous délaisserai pas, je vous sauverai, je serai avec vous, je vais vous libérer, je veux vous ramener dans le pays où coule le lait et le miel. Il a répété particulièrement ses promesses au patriarche que j'ai cité tout à l'heure, pour leur dire, cette bénédiction s'accomplira. Il attendait. Habacuc, il dit, à la fin du chapitre 1 et le verset 2, il dit, j'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel allait me répondre. Et lui, il me dit, il faudrait attendre. Si la promesse tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce sont des choses dont les temps ont déjà été fixés. Elles marchent vers leur accomplissement. Si elles semblent tarder, mais attends-la. Ne perds pas courage, surtout pas. Parce que moi, l'Éternel, j'ai promis. Et ces choses se réaliseront. Il y avait une promesse. Ils savaient, Dieu leur avait dit quelque chose. Et ils savaient que de toute façon, ces choses s'accompliront parce que c'est sorti de la bouche de l'Éternel. Et Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il a promis, il va le faire. Nous allons lire ce verset, ce passage de Habacuc. On va laisser tomber la première partie pour prendre directement le chapitre 2. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. J'aime bien parce qu'il dit, j'étais à mon poste, et il dit, j'étais à mon poste et j'attendais de voir ce que l'Éternel me dira. J'attendais de voir ce que l'Éternel me dira. On dirait que c'est une erreur. Mais lui, il dit, j'attendais de voir. Mais de voir, c'est que l'Éternel me dira. Parce que ce que l'Éternel dit, Nous le voyons au loin avec nos yeux spirituels. Et c'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. L'espérance, parce que tu attends quelque chose avec impatience, plutôt avec patience, avec confiance, parce que tu sais que la chose arrivera, alors quelque part tu vois déjà la chose. Quelque part tu la vois au loin. Et parce que tu vois déjà la chose au loin, tu crois à la chose. Et parce que tu vois la chose au loin, c'est ce qui nous donne une certaine confiance dans notre attente. Parce qu'on voit. Mais nous voyons ce que l'Éternel a dit. Nous n'entendons pas. Mais nous voyons ce que l'Éternel a dit. Donc là maintenant, les yeux du cœur, de la foi, voient. Et notre espérance s'attache à ces choses. Notre cœur est dans la quiétude parce que nous savons que ces choses arrivent. Elles arrivent certainement. Je les ai vues. Elles arrivent. Si on est dans l'attente d'un invité ou d'une personne et que l'un d'entre nous vient nous dire, tiens, je l'ai vu. Il est en bas, il est déjà en train de parquer la voiture. Dans 2 minutes, il sera là dans la pièce. Forcément, nous qui n'avons peut-être pas vu, pour les plus récalcitrants ou pour les plus durs, ils se diront, il a peut-être confondu, c'est peut-être pas cette personne-là. L'attente de ces deux personnes sera différente. Celui qui a vu aura une certaine quiétude, une certaine patience, parce qu'il sait que de toute façon, je l'ai vu, il est là, c'est sûr. Celui qui n'a pas vu, à un moment donné, pourra commencer à douter. Il se pourrait qu'il soit pris dans les bouchons. Ce pourrait qu'il soit même pas sorti de chez lui. Peut-être qu'il a eu un accident. Peut-être qu'il a eu une maladie. Peut-être qu'il est parti en voyage, il a oublié le programme. Parce qu'on n'a pas vu. Et quand on n'a pas vu, ça nous déstabilise. Quand on n'a pas vu, on perd une certaine quiétude. Mais une fois qu'on a vu, on est au calme. C'est pour cela Habacuc dit, j'attendais de voir ce que l'Éternel dira. Et nous encore aujourd'hui, nous voyons ce que l'Éternel dit au travers de son écriture, au travers de sa parole. L'Éternel a dit tant de choses. Est-ce que nous les voyons? On a peur, on tremble, on désespère parce qu'on ne voit pas. Parce qu'on ferme nos yeux. Alors qu'il nous faudra voir ce que l'Éternel a dit. Il dit grave cela sur une pierre. Qu'on la lise couramment. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ce qui est écrit n'est plus écrit sur une pierre. Dieu qui autrefois avait donné une loi qui était écrite sur une pierre, on devait la lire, elle devait être placée quelque part. Désormais, cette loi, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, Dieu habite en nous. Cela est gravé en nous, dans nos cœurs. Ça a une place en nous. On la retourne tous les jours dans nos cœurs. Et avec nos yeux, nous pouvons voir ce que l'Éternel a mis en nous. Nous examinons la parole de Dieu dans nos cœurs maintenant. Et ça nous donne de l'assurance, ça nous donne de l'espérance. Parce que nous savons que de toute façon, nous avons déjà vu au loin ce qui arrive. Et nous sommes dans le calme. Parce que ça arrivera certainement. Ça arrivera certainement. Il n'y a plus à craindre. Ça arrivera certainement. En Afrique, quand généralement une femme est au début de sa grossesse, il suffit que les femmes âgées qui ont de l'expérience ou les personnes âgées qui ont de l'expérience détectent les premiers signes pour se dire elle est enceinte. Une fois que c'est confirmé, on lui posera la question à 2-3 fois. Peut-être qu'elle dira non, c'est rien du tout, c'est juste un petit malaise. Et sagement, les vieillards, les sages répondent pour dire, mais de toute façon, attendons. Qu'importe le temps. On le verra bien. Son ventre finira par prendre de l'ampleur. Et si je dois traduire un peu littéralement, on dit, de toute façon, ça n'ira pas derrière. Ça n'ira jamais. C'est pas le dos qui va prendre de l'ampleur. Ça sera toujours son ventre. Donc, attendons. Calmement. De toute façon, un jour ou l'autre, elle ne pourra plus nier. Ça sera certain. C'est un peu la même chose. Une fois qu'on a vu les choses de Dieu, soyons calmes, parce que ça marche vers son terme. Le temps a été fixé. Ce n'est pas nous qui avons fixé le temps, c'est Dieu qui a fixé le temps. Nous, nous avons vu et nous espérons tout simplement. Et dans le Nouveau Testament, justement, nous nous espérons plus en ces choses spirituelles d'abord que Dieu nous a données. Parce qu'au travers les yeux de la foi, nous avons vu ce que l'Éternel a promis. Tout a été accompli. Dieu a déjà tout dit. Il n'y a aucune chose nouvelle que l'Éternel dira qui sera en dehors de sa parole. Comme disait quelqu'un, la parole de Dieu, c'est la plus haute autorité dans le ciel. La plus haute autorité dans le ciel, c'est la parole de Dieu. Au-dessus de la parole de Dieu, il n'y a rien. Cette personne-là disait, même Dieu lui-même est soumis à sa parole. Donc tout ce que Dieu a prévu pour nous, tout ce que Dieu veut nous donner, quelque part, il nous l'a déjà dit, c'est écrit. Mais est-ce que maintenant nous le voyons avec nos yeux? Est-ce que nous le voyons? Ce que Dieu a dit, est-ce que nous le voyons? Ou nous nous contentons simplement d'écouter? Est-ce que nous voyons ces choses pour avoir une certaine assurance? J'ai vu, je sais que ça arrive. Et alors, en ce moment-là, l'espérance prend toute sa définition. On attend, tout en ayant confiance. Tout en ayant confiance parce que, tout simplement, c'est basé sur la foi. On va prendre Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ah, là, Paul dit, attendez, ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut encore espérer? Si on a vu, ce n'est plus de l'espérance. Peut-on espérer à des choses qu'on a déjà vues? Mais si nous n'avons pas vu et que nous espérons, alors en ce moment-là, nous espérons avec une certaine persévérance. Alors qu'Habacuc dit, j'ai vu. J'attendais de voir ce que l'Éternel m'a dit. Mais Paul lui dit, si on a vu, est-ce qu'on peut encore espérer? Est-ce qu'on peut encore parler de l'espérance? Tout simplement, parce que l'espérance, comme je disais, nous permet de voir ce que Dieu a dit. Mais ce que nous voyons, ce que Dieu a dit, est une vision lointaine. Aujourd'hui, comme disait Paul, nous voyons dans un miroir. Et ce n'est pas encore clair ce que nous voyons. Mais nous croyons que cela s'accomplira. C'est pour ça qu'il dit ce que nous avons déjà vu. Alors là, il veut dire ce que nous avons déjà saisi. Est-ce que nous pouvons encore espérer à ces choses? Il veut nous faire comprendre que la parole de Dieu, nous la voyons par la foi. C'est nos yeux de la foi qui perçoivent et qui saisissent les choses. C'est pour cela que nous avons parlé de la foi qui saisit les choses spirituelles. Donc l'espérance n'est pas le fait que l'on possède de manière concrète ce qu'on désire avoir. Non. L'espérance, selon la parole de Dieu, c'est le fait que l'on possède spirituellement déjà ce que Dieu nous a donné. Habacuc dit, j'étais à mon poste et j'attendais. J'attendais. Et il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, il voyait, il attendait de voir ce que l'Éternel allait lui dire, mais c'était avec les yeux de la foi. Son espérance l'a emmené en dehors de lui. L'espérance nous emmène au-delà de nous pour posséder ces choses. Parce qu'on est dans l'attente. On attend, on espère. Et cette patience-là, C'est comme si on possédait déjà la chose. Tu diras, mais tu ne l'as pas encore obtenu. Qu'est-ce qui fait que tu sois si sûr de toi, si calme? Non, je sais que parce que j'ai vu la parole de Dieu avec mes yeux spirituels, j'ai la chose. Mais concrètement, je ne l'ai pas. C'est pour cela que je continue d'espérer. Nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. Moi, j'aime bien dire pour ceux-là qui prient le Seigneur en esprit et en vérité, la vie éternelle, elle commence dès maintenant et elle continue, tout simplement. Elle continue. La mort n'est qu'un passage. La mort ne fait qu'à un moment donné, on se débarrasse de ce qui n'a pas droit à la gloire de Dieu, ce corps de chair, ce corps corrompu, tout simplement. Mais la vie éternelle, une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, cette vie éternelle, elle commence. Dès le jour où tu as cru, où tu as donné ta vie au Seigneur, cette vie éternelle, elle a commencé déjà. Elle ne va jamais s'arrêter, c'est pour cela qu'elle est éternelle. Parce qu'elle n'a ni commencement ni fin. C'est nous qui entrons dans l'éternité de Dieu, c'est nous qui entrons dans le plan de Dieu. Dieu ne commence pas à exister et Dieu ne crée pas la vie éternelle à partir du moment où nous nous croyons. Non, la vie éternelle existe déjà. C'est nous qui maintenant prenons part à cette vie éternelle. La vie éternelle devient notre part, notre lot. Mais elle est déjà là. Donc nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Mais nous continuons d'espérer au retour de notre Seigneur. Et le jour où nous allons entrer dans sa gloire. Donc nous voyons déjà la chose. Nous la vivons parce que nous croyons à cette chose-là. Mais nous n'avons pas encore la chose de manière absolue et concrète. Parce que il y aura un jour où effectivement on va se débarrasser de ce corps, où on entrera totalement dans sa gloire et il fera des nouveaux cieux. Nous serons dans sa gloire. Et là où il dit, nous n'aurons même plus besoin de la lumière du soleil pour être éclairés, ni de la lune, ni de la lumière, mais sa gloire nous suffira. Voilà en fait les deux passages. Et ça, c'est l'espérance. Parce que nous, nous voyons déjà avec nos yeux ce que Dieu nous donne. Acte 24, 15. Acte 24, 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Tout simplement, ce verset nous montre clairement. Il dit, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Je crois que cette résurrection viendra, mais j'ai déjà la vie éternelle. Mais je crois qu'un jour, la trompette sonnera. Et qu'en un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront vivants seront changés. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés. Ça sera une phase. Alors en ce moment-là, nous allons maintenant posséder. Et une fois qu'on aura possédé cette chose, ça ne servira plus à rien d'espérer encore. Parce que nous aurons cette chose-là. C'est pour cela qu'après toutes ces choses-là, une fois que les morts en Christ ressusciteront, une fois que Dieu aura établi son jugement, il n'y aura plus rien. Une fois que Dieu aura clôturé l'histoire de l'humanité, il n'y aura plus rien. Les méchants seront perdus pour l'éternité, malheureusement. Et les bons seront sauvés pour l'éternité. Il n'y aura plus à espérer. Nous serons tous dans la gloire de Dieu. Tous les jours, sans fin. Il n'y aura plus la notion du temps. Pourquoi la notion du temps? Par rapport à quoi? Nous serons déjà dans la gloire de Dieu. Que nous servira-t-il de compter les jours? Nous serons déjà dans la gloire de Dieu. Pour l'éternité. Que l'on fasse 5, 10, 15, 20 jours, nous serons dans l'éternité de toute façon. Donc la notion du temps sera mise de côté. Et alors on va posséder cette chose. Mais pour le moment, nous attendons avec persévérance. C'est pour ça qu'il dit que pour le moment, nous nous attendons avec persévérance. Donc quand on a vu avec les yeux de la foi, tel qu'Habacuc le disait, on espère. Cette espérance nous donne une certaine patience, une certaine quiétude. Parce qu'on sait qu'on a vu, la chose arrive, elle marche vers son accomplissement. Elle s'accomplira certainement. Ça crée en nous la patience. Et maintenant, quand on prend la version de Paul et que ces choses qui arrivent sont dans le spirituel, elles vont s'accomplir, elles vont nous atteindre un jour. Nous attendons en ce moment-là et notre position d'espérance crée en nous la persévérance. Ça crée maintenant en nous la persévérance. La première fois, ça crée en nous la patience. Et la deuxième fois, ça crée en nous maintenant la persévérance. Parce que tant que on n'a pas encore saisi la chose, il nous faut persévérer, il nous faut continuer. Il ne faudrait surtout pas tomber en chemin. Il ne faudrait surtout pas abandonner. Malheureusement, si aujourd'hui il y a des gens qui croient, ils sont sauvés, après quelque temps, ils abandonnent la foi. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus la vie éternelle. Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Pourtant, ils possédaient déjà la chose. Ils avaient l'espérance à un moment donné. Ils avaient la quiétude et la patience. Mais parce qu'ils ont perdu la persévérance, ils se sont éloignés. Et ils ont perdu ces choses. Et ce sont des choses qui salueront au loin, mais ils n'entreront jamais. Ceux qui, dans le désert, ont manqué de persévérance, ceux qui, dans le désert, ont manqué de patience, ils avaient la promesse. Ils savaient que Dieu nous a fait sortir d'un lieu pour nous emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Mais toute cette génération a été détruite dans le désert. Et ils ont salué la bénédiction au loin. Ils ne sont jamais entrés. Mais ceux-là qui ont cru, ceux-là qui ont persévéré, sont ceux-là qui sont entrés. Du nombre de quels était Josué, du nombre de quels était Caleb. Ils sont allés espionner, ils sont entrés, ils ont vu qu'il y avait des géants. Eux, ils ont gardé confiance. Eux, ils ont persévéré et ils ont continué. Et si seulement tout le peuple les avait écoutés, ils seraient entrés 40 ans plus tôt. Dieu leur a fait tourner dans le désert parce qu'ils avaient perdu la persévérance. Donc, cette espérance, nous l'avons par rapport à la vie éternelle, comme je le disais. Nous espérons et nous l'attendons. Nous attendons cette espérance et ça sort en nous. Nous sommes dans une attente où nous soupirons maintenant à ces choses qui nous sont présentées. Nous soupirons à ces choses que nous avons entendues, que nous avons vues. Nous attendons cela, Seigneur. Nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après ton royaume. C'est ça l'espérance. Ça nous fait sortir. Et ça nous crée, ça crée en nous l'espérance et la persévérance. L'espérance dans la résurrection des morts. C'est que nous croyons que même si la mort existe, même si un jour la mort viendra, nous, notre espérance nous met en confiance. Et la mort ne nous fait plus peur. Ô mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Je n'ai plus peur de toi. Tu as été dépouillé parce que tu n'es qu'un passage pour moi. Une porte qui s'ouvre, je passe d'un endroit à un autre. Tu n'es que ça, mort. Tu n'es que ce processus-là. Parce que après tout ça, moi j'espère au-delà de toute chose. Moi, je continue d'espérer. Moi, je crois. Acte 24, 15 nous dit ceci. On l'a déjà lu. J'aimerais qu'on le relise. Pour qu'on passe après à autre chose. Acte 24:15. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Nous croyons et nous espérons que cette résurrection viendra. Et que de cette résurrection fera naître maintenant la rédemption de nos corps. Romains 8, 19, 23. Romains 8, 19, 23. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Donc, parce que nous croyons à la résurrection des morts, nous croyons que Dieu nous apporte la rédemption de nos corps. Et nous espérons après cela. Seigneur, nous savons que ce corps passera et que tu nous donneras un corps de gloire. C'est une espérance que nous avons parce que nous ne la possédons pas encore. Parce que nous ne sommes pas encore dans notre corps de gloire. Mais nous espérons et nous avons déjà cela parce que Christ vit en nous et nous croyons que dès le jour où nous avons cru, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc l'espérance qui nous donne cette patience nous fait attendre, comme Paul le disait. Je suis dans cette tente, mais je sais. Et j'ai envie d'aller le plus vite possible vers Dieu. On a le plus vite possible envie d'entrer en possession de toute cette gloire que Dieu a mis devant nous, la gloire éternelle. Mais nous restons encore, nous prenons patience. Parce qu'il y a des choses à faire pour Dieu. Nous espérons en l'avènement de notre Seigneur Jésus, tel le dit Philippiens 3, 20. Nous espérons dans le retour de Christ, tel le dit Tite 2, 13. Nous espérons des nouveaux cieux, une nouvelle terre. 2 Pierre 3, 13. Hébreux. Hébreux 6, 19, 20. L'auteur dit ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Comme je disais, Jacob, Israël, voulait mourir et il appelle son fils, il le rappelle encore, il renouvelle cette espérance. Et son fils, à son tour, à sa mort, il rappelle cette espérance à tout un peuple. Ils croient et ils espèrent que réellement, cette terre qu'ils ont vue, Dieu leur donnera. Cette terre qu'Abraham a vue, Dieu donnera. Il garde cette espérance-là, solide au-delà de tout. L'espérance, elle est comme une ancre jetée. Parce que, comme le dit ce passage, au-delà du voile, là où Christ lui-même est entré. C'est-à-dire que cette espérance s'attache par le fait que simplement Jésus-Christ qui lui-même est entré et qui s'est sacrifié, et que son sacrifice a été agréé, qu'il a tout obtenu pour nous, cette espérance s'attache à cela. C'est pour ça que Romains 5, 5 dit « L'espérance ne trompe pas. » Elle ne peut pas tromper parce qu'elle n'est pas basée sur un homme. Elle n'est pas basée sur l'œuvre d'un homme. Elle est basée tout simplement dans notre relation avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, a été agréé par le Père. Vous êtes à moi et moi je suis à Dieu. Alors quand nous avons une espérance pareille, il dit c'est comme une ancre qui est jetée et qui est solidement attachée. Cette espérance-là ne sera pas ballottée à cause de ce que l'on peut voir ou l'on ne peut pas voir. Cette espérance ne dépendra pas des conditions physiques. Cette espérance ne dépendra pas des circonstances parce qu'elle est attachée comme une ancre. Une fois que l'ancre est jetée, le navire, on va dire quelque part, s'immobilise. C'est vrai, il peut être ballotté parce que bon, il y a des vagues, mais quelque part, il reste attaché parce que c'est accroché quelque part. Et tant que nous, notre espérance est comme une ancre qui est jetée au-delà du voile, c'est-à-dire que tant que notre espérance sort et ne dépend plus de nous-mêmes, ne dépend plus de nos connaissances, mais dépend de Dieu, dépend de ce que Christ a obtenu pour nous dans son sacrifice, alors seulement nous sommes solidement attachés. Quoi qu'il arrive, nous gardons le calme. Quoi qu'il arrive, nous gardons notre espérance. Même si la mort intervenait, nous savons que notre espérance reste intacte. Parce que rien ne pourra venir la changer. Une espérance qui est inébranlable, parce qu'elle est jetée au-delà du voile. Ça veut dire que nous-mêmes, on entre dans le au-delà du voile, parce que nous avons maintenant accès. Et nous voyons ce que Dieu a dit. Que j'ai agréé ce sacrifice. Je n'ai voulu ni holocauste ni offrande, mais le Seigneur Jésus-Christ est monté comme l'agneau. Il a tout payé. J'ai agréé. Et notre espérance se rattache à ça. Tant que ça sera attaché à la parole de Dieu, tant que nous serons en Jésus-Christ et que Jésus-Christ sera dans le Père, nous avons cette espérance intacte. Même si nos yeux physiques ne voient pas, même si on ne comprend pas, même si tous les éléments qui pouvaient nous aider à espérer, ces éléments-là partent, nous continuons d'espérer. C'est pour ça que même dans la disette, on espère. Même dans la souffrance, on espère. Même dans les persécutions, on espère. Même quand tout va mal, on espère. Parce que cette espérance ne dépend plus de notre corps physique. Cette espérance ne dépend plus de notre raisonnement. Cette espérance ne dépend plus de tous les éléments qu'on peut avoir autour de nous. Cette espérance dépend tout simplement de Jésus-Christ. Étienne, alors qu'on le menaçait et qu'on voulait le lapider, c'est en ce moment-là que, oh, il a encore une vision. Il dit, je vois le Seigneur assis sur son trône. On aurait été peut-être à sa place, on allait se dire, mais Étienne, tu n'as pas été sage. Ce n'était pas le bon moment de parler de ces genres de choses. Déjà qu'on te menaçait à cause de ta foi, déjà qu'on te menaçait à cause de ce genre de propos, et tu trouves encore le moment de dire à haute voix ce genre de choses. Mais toutes les menaces qu'il y avait autour de lui ne l'inquiétaient pas du tout. Parce que son espérance était rattachée à ça, justement. Il avait le droit d'espérer. Même quand on pouvait commencer à le lapider, il y avait la première pierre, la deuxième pierre, il y avait des insultes, il y avait des bâtons, il y avait des crachats, peu importe. Lui, il continuait d'espérer parce que ça ne dépendait plus de ça. Son espérance allait même au-delà de ses souffrances physiques parce qu'il avait vu quelque chose. Et aujourd'hui, la Bible nous dit encore que notre Seigneur est assis dans les lieux célestes. Il est dans sa gloire. Alors que Jean a eu une vision, la vision de l'Apocalypse, et qu'il commençait à trembler en se disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et les premiers instants, il dit, j'aime bien, il dit, je vis un trône. C'est bien. Mais ce qui nous rassure et qui fait notre espérance, il dit, sur ce trône, il y avait quelqu'un. Sur ce trône, il y avait quelqu'un qui avait l'aspect l'agneau de Dieu. Et tant qu'il sera assis, tant qu'avec nos yeux du cœur, nous verrons aussi le Seigneur dans sa gloire, peu importe ce qui arrive. Même s'il arrivait comme dans certains pays ou à certaines époques, les gens devaient se réunir en secret, où on rasait, on détruisait les églises, où on menaçait de mort quiconque avait la foi. Même s'il arrive des moments compliqués où on a espéré, on a cru, mais les choses sur lesquelles on a basé notre espérance, finalement, on les a perdues. Mais notre espérance tient toujours. Parce que de toute façon, elle ne dépend pas des hommes. Elle ne dépend pas de ce qui se passe. Elle ne dépend pas de la compréhension de l'intellect des hommes. Mais elle dépend de notre Dieu. Et nous avons foi. Elle est attachée. Elle est solidement ancrée dans la parole de Dieu. Et rien ne peut nous détruire. rien ne peut détruire notre espérance. J'ai vu quelqu'un sur un trône, sur le trône de gloire. Ces choses sont écrites. Mais maintenant, il faudrait que, avec les yeux de nos cœurs, nous puissions voir. Que nous puissions déjà voir, comme Habacuc disait, j'attends de voir ce que le Seigneur me dira. Oh, le Seigneur a déjà dit. Nous n'avons plus rien à attendre. Il a déjà dit. Tout est écrit dans le livre, tout a été inspiré. Tout a été dit. Maintenant, avec nos yeux de la foi, pour espérer, il faudrait que l'on voie. Et que non seulement que ça produise de la patience en nous, mais que ça produise aussi de la persévérance. Afin qu'on puisse continuer sur cette voie. Parce qu'on croit en quelque chose. Parce qu'on espère en quelque chose. Et l'espérance vient donc se fonder sur la foi. Parce que j'espère, non pas dans le néant, mais j'espère parce que je crois. Il y a des gens qui peuvent te dire, oui, je crois que il pourrait avoir un changement dans telle ou telle autre situation. Dans nos pays d'origine, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, on espère que ça va changer. Mais ils le disent comme ça. Ils ne croient pas que ça va changer. Ils le disent comme ça. On espère que ça va changer. Mais est-ce que réellement ils croient à cela? La vraie espérance, c'est celle qui est assise sur la foi. Parce que la foi elle-même, elle repose en Jésus-Christ. C'est ça la vraie espérance. Sinon, ça ne sert à rien d'espérer. Sinon, ça ne sert à rien d'espérer. Mais quand notre espérance est assise sur la foi et que cette foi est enracinée et profondément ancrée dans le roc, alors on peut espérer. Parce que rien ne viendra détruire notre espérance. Même quand tout sera sombre autour de nous, nous allons continuer de croire que le Seigneur, dans sa gloire, fera quelque chose. C'est ça l'espérance. Pour finir, un jour Agabus est venu voir Paul pour lui dire, Paul, regarde le signe que j'ai fait. Je me lie avec cette ceinture. Et le propriétaire de la ceinture, qui n'était autre que Paul, sera lié de la même manière. C'était comme pour dire, Paul, cette fois-ci, tu vas là-bas, mais tu as connu des expériences avec Dieu, mais cette fois-ci, je crois que ça va être dur pour toi. Ça va être la dernière. Paul a dit, j'irai. J'irai parce que son espérance ne dépendait pas de son confort physique. Il avait déjà dit, mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Je continuerai d'espérer, même si on me promet la mort. Parce que je sais qu'après la mort, il y a la vie. Et je possède déjà cette vie. Mais je continue de soupirer après cette vie. Je possède cette vie et je continue de soupirer après cette vie. Je la possède, mais parce que je continue de soupirer après cette vie, je persévère. Parce que je ne veux pas m'arrêter en chemin. Parce que je veux aller jusqu'au bout. Parce que je ne veux pas, après avoir goûté aux choses célestes, les abandonner. Je vais continuer. J'ai été changé, j'ai une nouvelle nature. Je veux continuer dans cette nature. Et je vais persévérer jusqu'au jour où, Seigneur, je pourrai te voir dans ta gloire. Jusqu'au jour où, Seigneur, mes yeux te verront. Jusqu'au jour où, Seigneur, je serai débarrassé de ce corps. Et je pourrai entrer dans ta gloire. J'ai la patience, j'ai l'espérance. Parce que j'espère. Et que mon espérance est basée sur la foi. Et que la foi elle-même est basée en Jésus-Christ. Et l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne ment pas. Continuons d'espérer. Continuons d'aller au-delà de nous-mêmes. Par la foi en Jésus-Christ. Continuons à croire, à attendre avec patience. Parce que ce sont des choses dont les temps ont déjà été fixés. Même quand tout va mal. Même quand les hommes peuvent changer les calendriers, même quand les gens peuvent se repentir, même quand les gens peuvent changer leurs promesses, sachez que Dieu, lui, ce qu'il a arrêté, ça reste intact. Et si ton espérance est basée sur ce que Dieu a dit, si avec tes yeux tu as vu ce que Dieu a dit, alors tu attendras avec patience. Et tu persévéreras parce que tu saisiras ce que Dieu t'a donné. Que Dieu nous bénisse. Seigneur éternel, renouvelle en nous un cœur pur, bien disposé, Seigneur. Nous voulons continuer d'espérer, Seigneur, envers et contre tout. Nous voulons continuer de croire, Seigneur, envers et contre tout, Seigneur. Que notre espérance ne dépende pas, Seigneur, des choses que l'on voit avec les yeux physiques, mais que notre espérance, Seigneur, se base sur ta parole. Parce que tu n'es pas homme pour mentir, tu n'es pas fils d'homme pour te repentir, Seigneur. Si nous basons notre espérance sur toi, le Seigneur, le vrai, alors nous avons droit, Seigneur, d'espérer. Alors notre folie est sagesse devant toi, même si elle reste folie devant les hommes, Seigneur. Ô Dieu, garde-nous. Garde nos cœurs, Seigneur, que cette espérance produise en nous la patience, parce que ce sont des choses dont les temps ont déjà été fixés. Ce sont des choses qui marchent à leur terme. Du reste, Seigneur, nous attendons ton retour. Et nous savons que tu es en chemin, tu arrives, Seigneur, à grands pas, et nous verrons ta gloire, Seigneur. Donne-nous de persévérer, Seigneur, au travers de cette espérance, afin que nous puissions saisir, Seigneur. Après avoir parlé de toi, Seigneur, après avoir proclamé ton royaume, Seigneur, après avoir invité les autres à y participer, à y adhérer, à entrer, Seigneur, que nous-mêmes on ne rate pas ce jour, Seigneur, que nous puissions nous retrouver dans ta gloire pour l'éternité. Bénis nos foi, Seigneur, bénis notre espérance, Seigneur, et affermis-les en Jésus-Christ. Amen.